beaucoup là.
Aïe.
Une forêt.
CO2, mon amour.
Avec ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Où ça?
Dans le Nord. Mais faut se décider vite.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt?
Du bois à brûler. Ah. Quoi? Ah, y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie, c'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable, mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis.
Denis Chessou.
D'ailleurs, ça grimpe déjà. Hein.
Sur France Inter.
Va te chercher ta brosse à dents.
Ah oui, ça c'est le domaine du bois avec Clovis Cornillac et Gérard Depardieu. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour. Très très nature, vous l'avez compris, avec la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Tristan Gratalon à la technique et avec Marion Philippe, nous avons préparé cette émission et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Qui commence toujours par une petite humeur. Alors, vous me réchauffez la surface et le bas des reins. Je suis formé par les flocons, l'accumulation d'épaisses couches de neige que la pression avec ses grosses papates a transformées en glace. Je glisse sur mon traîneau vers vos vallées. Bah oui, je suis un glacier. Belle vocation, hein, d'ailleurs, à l'origine. Hein, j'ai choisi ce métier de lenteur, de force, de beauté. Moi, je suis là pour nourrir vos fleuves, je régule le climat, même si dans l'histoire, on a toujours augmenté ou régressé. Mais, je croyais pas que le job était aussi dangereux, dites-donc. Et je ne savais pas que j'avais signé en fait un CDD. Mes copains glaciers des Pyrénées, eux, ils seront aux premières loges vraiment pour s'inscrire à Pôle emploi. Et dommage, ce n'est pas un pôle de glace. Fin 21e siècle, qu'est-ce que je serais, moi, hein? Une photo que vous aurez prise il y a 80 ans? Et puis les mômes qu'on laisse à la planète, eux aussi, qui seront-ils? Alors, je peux même pas accueillir un ours blanc comme réfugié climatique. Il aura trop chaud en se promenant sur mon ventre. Alors moi, la mer de glace, avec mes copains des Bossons et d'Argentière, bah, faut quand même le dire, je suis un peu le boss quand même ici, hein. La gravure de mode des glaciers, c'est moi. J'ai pas pu parler à votre président quand il est venu. Je n'ai qu'une langue de glace avec ma gueule d'effondrement. Comme les sympas des Vosges, comme les bouffés par les scolytes, comme la disparition des insectes, des amphibiens, mais surtout la disparition de votre relation au vivant. Alors, mec à hauteur glacier, great again. Bon, je sais, l'affaire est mondiale. Mais quand même, regardez les camions qui se déversent à mes pieds dans cette vallée du Mont Blanc, qui est à la fois superbe et une des plus polluées de France. Vous trouvez ça logique, vous? Faut ménager, les gars, maintenant, hein. Comme mes copains, les océans, les forêts, les sols. Eh ouais, faut atterrir, les mecs, hein, en se calmant sur l'avion, le cargo, le SUV, la viande, le ciment, le pétrole, les minerais. Oh la bijou, on se calme. Ouais, mais la machine, elle est partie. Et si t'es bon pour le toujours plus, bah pour la marche arrière, t'as pas encore lu exactement le mode d'emploi. Trop fort, le climat. Alors comment fait-on pour pleurer sur son sort, sur mon sort de glacier, et se réjouir d'avoir vendu des avions, des bateaux de croisière, de signer des taffetas, des CETA, et de laisser les pesticides se poser toujours en plus grand nombre sur mon visage empierré? Mer de glace, mer de cailloux demain. Alors vous pourrez toujours tenter de m'emballer, de saupoudrer vos stations de neige par hélicoptère. Des pans de montagnes dégelés continueront à s'effondrer, à l'image des civilisations qui ne tiennent pas compte de l'environnement. Comme on a formé une amicale, bah j'en parle à mes collègues de Patagonie, du Groenland, des Alpes, de l'Antarctique, de l'Himalaya, où quand même 40% de la population mondiale dépend de nos eaux. Et bah c'est pareil, même constat, ça fond. On vous réserve d'abord trop de flotte, de jolies inondations, et puis après, ce sera la rareté. Ah, je vous le dis, moi, être glacier au 21e siècle, allez, jeune. Non, je vous le conseille pas. Ah, mais parlez-moi du petit âge glaciaire. Ah, ça, c'était génial. C'était hier, ça, pour moi. Là, j'étais un caïd. Je faisais peur. Pas loin de Chamounix, avec ma langue, je léchais le village des bois. Je frappais à la porte des maisons en descendant à coups de 2 mètres par jour. Alors on appelait les curés et les évêques pour que le diable retourne vers les sommets avec sa glace dans son sac à dos. Mais le diable, bah ça vous réchauffe. Et le diable sur ce coup-là, c'est pas un peu vous et vos dirigeants, ça? Coup de chaud sur la finance, la conso, nos hormones, nos cerveaux, faut aller vite, toujours plus vite. Faites chauffer la colle et déglacez le glacier. Nature, hommes, glaciers, animaux, tous dans la même éprouvette, je mélange. Que va-t-il en sortir? Surprise. Et aujourd'hui, à nos petits, de notre enfance, réécrivons les chansonnettes. Vous savez, c'est bien les comptines. Ainsi fondent les petits et les grands glaciers de la planète. Je vous emmène entre l'Alsace et la Lorraine aujourd'hui, donc pour un reportage très nature dans le Bas-Rhin. On va découvrir Jean Vogel, donc qui est le maire de Salles, combat pour un maire qui profite des atouts écologiques du lieu, des événements aussi pour maintenir son village, dont les décisions sont souvent prises du côté des métropoles. Vous allez voir, ça nous fait le plus grand bien. Je vous souhaite le meilleur aujourd'hui.
On parle de l'altitude, toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait, à rester fier, ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu. Des gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Loin de nous, loin de nous, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira.
Oui, je pense que c'est une histoire d'amour qui est un petit peu mal tournée, donc Angèle, mais bon, allez, elle va se remettre, elle a quand même une victoire de la musique.
Je vous demandais de quitter les lieux.
Chut. CO2, mon amour.
Je fais de l'hyper-audition. Écoutez. Vous voyez, mes pas dans la neige. Bah, j'entends chaque détail. Comme un monologue avec le vin.
Denis Chessou.
C'est incroyable la qualité de l'air ici. Hein.
Sur France Inter.
Je crois que ce qui me motive, c'est les défis, c'est l'aventure. Des fois, des jeunes, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans la ruralité? Ben, on a tout en ville, il n'y a rien, il n'y a pas de culture, rien. Mais le dernier terrain véritablement d'aventure, c'est la ruralité. Il y a un champ, des possibilités, des défis énormes à relever. Je veux dire, si un jeune n'a pas envie de relever des défis, il ne faut pas qu'il soit jeune. Vous savez, j'étais le charlot quand on parlait de développement durable il y a 15 ans. C'était l'écolo de service à côté de ses pompes. C'est une mode, ça lui passera. Dans 5 ans, il aura compris, etc. Et aujourd'hui, je vois des gens qui étaient extrêmement sceptiques, qui finissent par voir ce qui s'est passé. Et donc vraiment, le message, c'est dire, les jeunes, allez-y. Allez-y, réinvestissez la ruralité. Il y a mille et une choses passionnantes à faire dans le développement durable, à lutter contre le changement climatique. Passez à l'action.
Jean Vogel, donc maire qui ne se représente pas, et vous avez bien compris le caractère déjà donc assez opiniâtre du bonhomme. On n'est pas loin de la vallée de la Bruche, on est entre le grès et le granit, donc on est à Salles, avec deux A. C'est la route du sel en fait depuis l'époque gauloise, et c'est une commune en fait du Bas-Rhin qui est posée sur un col des Vosges entre la Lorraine et l'Alsace, donc c'est un passage entre Saint-Dié et Strasbourg. Alors c'est un village qui est pauvre, hein. Si vous voulez, son budget municipal doit à peu près correspondre au budget fleurissement et espace vert d'une commune voisine de 20 000 habitants. Jean Vogel est maire et producteur de petits fruits, de baies de qualité qu'il transforme, et transformer sans dénaturer, c'est vraiment son credo. Bâtir avec la population, donc un rempart au renoncement qui est assez fréquent aux zones rurales. Donc ça, c'est 850 habitants hein, qui veulent vivre, qui veulent attirer de nouveaux habitants. Ils y arrivent, ils ont gardé leur école. Et on est un peu dans la suite de l'émission de l'économiste Éloi Laurent de la semaine dernière. Hein. Fabriquer du bien-être ensemble, c'est la boussole de ce maire sans étiquette qui termine son quatrième et dernier mandat. Nous sommes donc au-dessus du village. Là, vous avez un joli promontoire qui permet de porter le regard sur l'intégralité de la ligne bleue des Vosges, des vallées vosgiennes et alsaciennes. Ça va être de l'air des Vosges aujourd'hui. Alors là, je vois donc un petit panneau en bois avec poire, pomme et cerise. Oula ! Ah oui, oui, et l'homme est pas très très loin des arbres fruitiers. Bonjour Jean Vogel.
Bonjour Denis.
Alors, je vous rejoins là parce que vous aimez beaucoup faire ce sentier, qui est un sentier en fait d'observation que vous avez créé. C'est un peu le sentier des fruitiers, c'est ça ?
Tout à fait. Si vous voulez, ça, là, une situation exceptionnelle, c'est que c'est l'unique agglomération qui se situe au sommet d'un col, d'où un point de vue exceptionnel.
Et là, on est quand même sur une terre qui est assez pauvre. Hein. C'est une terre de seigle, de pommes de terre à l'origine. Et donc, une des richesses qui est arrivée d'ailleurs, allez, on va dire encore relativement récemment, mais ça a toujours été la forêt, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un potentiel agricole extrêmement réduit, des sols très pauvres, ben, des températures, on est en montagne plutôt fraîche. Et le seul point positif, c'était l'eau. Et donc, on sait que les résineux ont besoin d'énormément d'eau. Et ils ont trouvé ici ce dont ils avaient besoin.
Vous avez été en tête de liste, si j'ose dire, au moment de la tempête de 99, donc il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça a été un couloir avant incroyable. Et en même temps, ça a réouvert aussi le paysage. Et je dirais que une de vos fonctions de maire, c'était justement une réappropriation des paysages. Ça, racontez-nous, parce que c'est très intéressant.
Vous savez, le soleil, c'est quand même un élément important pour la qualité de vie, tout le monde le sait. Et ici, il y a eu un phénomène qui est assez rare, qui est même unique en France, mais qui touche tout le massif vosgien, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on arboisait les trois quarts des terres agricoles. Et donc, bien entendu, on arboisait jusque derrière les maisons. Et un jour, le soleil ne se levait plus à 5 heures du matin, mais il se levait à 11 heures. Et donc on s'est rendu compte que les villages qui étaient complètement encerclés de forêt finissaient par disparaître. Donc quand on a été élu en 1995, on a décidé de mettre en place des projets paysagers pour couper tous ces arbres qui ont été plantés sur terrain agricole autour du bourg. On a été, sans cela, effectivement bien aidé par la tempête de 99. Et donc, plus de 50 à 60 hectares ont ainsi été redonnés à l'agriculture.
Et alors ça en fait, ça contrariait les mentalités, parce que pour beaucoup de gens, forêt égale richesse, quoi.
Tout à fait. Alors on se dit, mais pourquoi les ouvriers paysans ont planté des arbres sur des terres agricoles? Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, celui qui coupait un hectare de beau sapin construisait une belle maison, achetait un bel appartement à Strasbourg. Et croyant bien faire, le petit ouvrier paysan qui avait 3 hectares, 50 parcelles, il a tout reboisé en se disant, au moins mes 3 enfants auront leur appartement ou leur maison.
Alors comment on transforme les défauts, je dirais, en atout?
Chez nous, on a fait un gros travail de consultation avec la population en disant, notre atout en montagne, c'est vraiment la nature, c'est l'environnement, c'est la qualité de vie. Comment on peut essayer de monter des projets autour de tout cela?
Alors, parmi les projets, c'était quoi?
Alors, on a initié donc des projets qui ont touché, comme je viens de le dire, la réouverture des paysages, le développement de l'agriculture, le cadre de vie. Et puis, il fallait rendre tout ça cohérent. Donc, on a embrayé sur des projets d'économie d'énergie, des projets d'énergie renouvelable. Et quand vous avez ce genre de projet sur une commune, vous attirez des gens qui, eux, viennent avec d'autres idées. Et ici, la grande spécificité à Salles et dans un certain nombre de communes de montagne, c'est que l'étranger, c'est pas l'ennemi. C'est une richesse. Et donc ici, quand nous avons des nouveaux habitants ou des résidences secondaires qui arrivent, c'est une richesse. On va les voir, on leur dit quelles sont vos compétences, quelles sont vos idées. Venez rejoindre le monde associatif, venez intégrer le conseil municipal, participer vraiment à la vie et au développement du village.
Alors, comment on fait lorsque on a ce combat, on va dire, face à une montée de logique financière, d'injustice des répartitions des finances publiques? Vous résistez bien, quoi.
Alors, on essaye d'être toujours malin. Je veux dire, quand vous avez un problème, ben, soit vous réussissez à le solutionner, soit vous le contournez. Mais il y a des fois, ça devient des rapports de force. Et on a l'habitude de dire ici que comme on est un des villages les plus éloignés donc du chef-lieu de Strasbourg, faut avoir l'habitude de crier très très fort si on a envie de se faire entendre.
Alors, lorsque vous avez en France une solution sur un territoire, paf, après, donc, on la généralise sur l'ensemble du pays. Les Allemands, donc, qui sont vos voisins, les Autrichiens, les Suisses, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils adaptent les lois aux réalités du terrain. Et ça change tout.
Ça, c'était une véritable catastrophe française. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une urgence climatique. Ouais. Mais nos outils institutionnels, notre administration, n'est préparée en tout, sauf à faire face à une situation d'urgence. Tous les Français comprennent qu'un problème en Haute-Savoie ne sera jamais le même problème dans la Creuse, et que dans la Creuse, ça ne sera jamais le même problème en Bretagne. Ce qui fait la richesse de la France, c'est ses territoires. Et nous, au lieu d'adapter nos lois à chaque territoire, on demande au territoire de s'adapter à la loi, ce qui est vraiment à l'origine, je pense, d'énormément de nos problèmes économiques et sociaux. Moi, ce qui me sidère, c'est que chaque fois que je vais à une réunion de maires, quand un ministre dit « vous avez des savoir-faire, vous connaissez des choses, il faut qu'on avance ensemble
oui, », c'est là comme ça.
C'est là qu'il y a le plus d'applaudissements, mais il n'y a jamais rien de concret après.
Alors là, on est à la lisière de la forêt, qui va grimper jusqu'à les 800-900 mètres à peu près. Et qu'est-ce qu'elle véhicule quand même, cette forêt, dans l'imaginaire des gens ici?
Alors si vous voulez, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris à Paris, la notion de bien commun. Et donc à Salles, nous avons deux biens communs essentiels, qui sont la forêt et l'eau. Et si vous voulez, il y a la richesse du bois, bien entendu, même si le prix s'est effondré ces dernières années. Mais vous avez les fruits sauvages, vous avez les champignons, vous avez cet espace de liberté. C'est pas une forêt privée, clôturée, dont on vous interdit l'accès. Ouais. Ici, il existe des chemins, les chemins sont balisés. Et c'est un bien commun qu'on se transmet de génération en génération, de conseiller municipal à conseiller municipal. Et depuis des décennies, dans chaque conseiller municipal, vous en avez une personne qui gère la forêt et rend ce service à la forêt, parce qu'on a une gestion totalement durable avec 95% de régénération. Et ils savent que le travail qu'ils sont en train de faire là, ben c'est dans 3, 4, 5 générations des arbres qui seront coupés dans 100 ans. Voilà.
Quand vous parlez d'économie circulaire, qu'est-ce que l'on recycle ici?
Alors, les économies circulaires, si vous voulez, par exemple, on a une chaufferie urbaine au bois. Automatiquement, ben, vous produisez des cendres. Donc, les cendres, ben, on les valorise au niveau de l'agriculture. Nous avons des agriculteurs qui produisent du fumier localement. Donc, voilà, ben, les agriculteurs qui n'en possèdent pas, ben, s'approvisionnent chez ceux qui en produisent. On a quand même beaucoup donc d'artisans de bouche qui font d'excellents produits, et on essaye au maximum, bien entendu, faire en sorte que la demande locale soit au rendez-vous.
Que vous ont enseigné ces 10-11 années que vous avez passées donc au Cameroun avec des producteurs de café, de cacao, de sucre? Est-ce que cette expérience-là, elle vous sert ici?
Absolument. Je l'ai toujours dit que je n'aurais jamais mener à bien tous les projets que j'ai menés si j'avais pas passé ma dizaine d'années en Afrique, aux côtés des paysans africains. Tout d'abord, c'est la notion de gens dans la difficulté. Et c'est là que, quand on est vraiment en difficulté, qu'on trouve les ressources pour vraiment remonter la pente et aller plus loin. Et quelque chose d'important, c'est le mot dialogue. C'est-à-dire, quel que soit le problème, il faut savoir dialoguer. J'aurais pu prendre en tant que maire des décisions expéditives, rapides, en disant c'est comme ça, on y va. Et sur certains problèmes, on a pris des années pour avancer. L'exemple le plus réussi, c'est le plan local d'urbanisme. où quand il y a une dizaine d'années on a commencé à réfléchir, c'était quasiment la guerre au sens propre, entre bien entendu les agriculteurs et d'autres personnes. Et on a pris le temps de mettre tout le monde autour de la table, tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu vraiment une véritable compréhension des problèmes des uns et des autres qui s'est faite. Et on a abouti à un plan local d'urbanisme qui permettait de reprendre des terres constructibles, de les remettre en agricole.
C'est exceptionnel.
Ce qui est exceptionnel, mais surtout sans que ça coûte l'élection du maire.
Ah, que c'est bien de marcher sur les foins là, qui viennent d'être faits. Ah. Oh là là, cette odeur. Toujours en train de marcher sur ces sentiers dans et autour de Salles avec Jean Vaugel.
Oui, tu fais ton boulot de chien. T'inquiète pas.
Alors, il y a l'entretien de ces sentiers communaux et là, vous laissez une bande de biodiversité, des plantes, des herbes, des petits épineux pour que les papillons, les abeilles, tout le monde se régale. Quoi.
Oui, alors... Ici, le grand changement, c'est que la biodiversité a explosé en 100 ans. Quand on regarde les cartes postales qui existaient dans les années 1900, tout était pelé, il n'y avait que des champs de pommes de terre, des prés, une céréale pauvre et le village. Il n'y avait aucun arbre fruitier. Et là, on peut dire effectivement que la biodiversité a été multipliée par 1000 ou par 10 000 en ces 50 dernières années.
C'est une manière de rappeler aussi que quand on lui fiche la paix, la biodiversité, à la nature, elle peut reprendre ses droits. Quoi.
Alors, le bémol, c'est que c'est quand même l'homme qui a permis. Si on avait laissé faire la nature, vous auriez ici des bouleaux, des aules. Oui. Et là, vous voyez, il y a de tout. Il y a des prés de fauche, il y a des pâtures, il y a des alignements de vieilles variétés fruitières.
Diriger,
vous avez des jardins, des friches, voilà. Et des zones humides, nous lui en parlons. On a laissé autour de ça pas mal d'hectares en zone humide, justement. Et c'est des zones où on ne pénètre pas.
Hop, c'est par là.
Alors, il faut peut-être quand même dire à quelque part qu'il y a eu quasiment 1 000 000 d'arbres fruitiers aux tiges plantés ces dernières années sur les communes de Salles et environnantes. Et que c'est quand même, ça constitue après un réservoir à biodiversité énorme.
Alors vous voyez, évidemment, il y a pas mal de maires qui ont le syndrome donc aménageur. Je dis syndrome, c'est pas une méchanceté, c'est juste un constat. Donc j'asphalte, tout va bien, on bétonne. Lui, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il redonne de la terre agricole et ça marche plutôt pas mal. Bon, après, tous les cas ne peuvent pas être transposables, mais je crois que cet homme-là nous fait du bien. Et on va poursuivre le voyage avec lui. Après, tenez, un petit coup de chanson. Ouais.
Two angels, but they were in disguise. Took one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. These arms hold me tight. Old fears help to ease them in my mind. New tears say that they will dry in time. Why me? How'd I get this? Hallelujah. Hallelujah. Laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since 95. Give me direction when it is hard to find. Three words, one line. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this? Hallelujah. She has come to pass.
one I wish I could see now. You always remind me that memories will last. These arms reach out. You were there to protect me like a shield. Long hair running with me through the field. Get this hallelujah. Why me? How to get this hallelujah? Why me? How to get this hallelujah?
Très agréable, hein, cette balade sur France Inter, CO2 Mon Amour, AIM, qui chantait Alléluia. Je pense que John Bess, qui peut-être nous écoute pas, serait assez contente en tout cas de cette jeune pousse. Donc on repart à Salles, 500, entre 500 et 800 mètres d'altitude, donc dans les Vosges, avec Jean Vaugelle qui a sorti un ouvrage aux éditions de La Nuée Bleue qui s'appelle L'Appel de Salles, donc je rappelle, hein, Salles avec deux A, Le combat d'un maire pour réveiller donc la France rurale. Donc il raconte vraiment tout ce travail, hein, qui ne va pas de soi. Il est arrivé, hein, cette commune pouvait parfaitement crever. Bah non, donc ils s'y sont accrochés. D'ailleurs, vous avez aussi des choses très performantes, hein. Vous avez la laiterie du Climont qui est au sommet du col, et avec un innovateur en produits, avec une énorme teneur en probiotiques. Vous avez aussi les fruits de Jean Vaugelle qui sont pleins d'antioxydants. Donc on fait attention, j'allais dire, aussi le lien entre la santé et le territoire. Et ça, évidemment, ça nous fait pas mal de bien. Alors, on poursuit le voyage. Tout va bien. Bon, vous l'avez compris, on a parler des foins, c'était pas exactement enregistré là il y a trois jours, mais c'est toujours là, c'est toujours bien en place. Respirez, on y va. On va quitter la forêt, on est toujours donc dans Salles, et là, Jean, on arrive devant une des fontaines, je dis une des parce que vous en avez donc une vingtaine, avec quand même ces très beaux bacs en grès, 1900.
Ces fontaines-là, c'est la véritable révolution dans nos villages au début du XXe siècle. Ouais. Une révolution parce que l'eau potable, c'est quelque chose de précieux. L'eau, s'il faut la chercher loin en forêt ou dans des ruisseaux, ben, ça prend énormément de temps et c'est pénible. Et surtout, on oublie quelque chose, c'est que la principale peur, il y a 150 ans, 100 ans dans nos villages, c'était les feux. Ouais. Les toits étaient de chaume, beaucoup de bois dans les maisons, du foin dans les greniers. Ben, le feu dans la cheminée, un vent du nord en hiver, une braise et ça partait. Et c'était pas une maison, c'était tout un quartier qui brûlait.
Donc c'était une pompe à incendie en quelque
sorte. Tout à fait. Ça servait à ça. Et aujourd'hui, ben, toutes les fontaines sont encore branchées sur la conduite du village. C'est le bien commun. Et notre fierté, c'est de dire, ben, à celui qui vient se promener à Salles, qui vient comme touriste, de dire voilà, toutes nos fontaines desservent de l'eau potable, vous pouvez la boire, vous en verrez beaucoup avec les jerricanes parce qu'on a d'une eau d'une extrême pureté.
C'est-à-dire qu'elle est très déminéralisée. Hein.
Extrêmement déminéralisée, et donc notamment bah, pour les gens qui ont des problèmes de calculs rénaux, bah, aujourd'hui on a plutôt une alimentation sur-minéralisée, et donc c'est une eau qui peut faire que du bien.
Alors, pas de produits chimiques dedans, enfin, vous n'avez pas mis de chlore, quoi, surtout.
Non, alors la grosse innovation, c'est qu'on a un petit réseau. La désinfection se fait par ultraviolet. Alors, ultraviolet, c'est un mot compliqué. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, séchaient le linge au soleil. Ben, faut savoir qu'ils...
Ça se fait encore, hein?
Ça se fait encore, tout à fait. Il y a des communes où c'est un peu mal vu, hein.
Ouais, non,
voilà, mais ça se fait. Et en fait, il y a dans le soleil une gamme de rayons ultraviolets qui est bactéricide.
Ouais, okay.
Et donc, qui détruit toutes les bactéries qu'il pouvait avoir sur le linge. On a mis cette gamme de rayons ultraviolets dans une lampe et l'eau passe autour de la lampe et automatiquement, c'est désinfecté. Et l'eau n'a absolument aucun goût de chlore.
Alors, vous tenez vraiment beaucoup à cette notion de bien commun. Donc, la forêt en bien commun, l'eau en bien commun.
Voilà, donc l'eau, c'est fondamental. Ici, de génération en génération, on se transmet le savoir de l'eau. Les ouvriers savent où sont les conduites, savent réparer, ce qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix de l'eau extraordinaire. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas compris puisqu'en 2015, et je suis désolé, le président Macron n'a pas voulu revenir en arrière, sans l'avis des communes, on a estimé qu'il fallait transférer la gestion de l'eau des communes aux communautés de communes. Et je
Ça va augmenter.
Voilà, donc la seule certitude, c'est que le prix de l'eau va doubler. Donc si la taxe d'habitation est supprimée, ben, les gens le paieront sur la facture d'eau, ce qui est pour eux sera une opération blanche. Et donc, mon dernier combat, c'est vraiment sur l'eau.
On poursuit la balade ?
Oui, allez, on y va.
Ah bah vous avez des cyclistes aussi, bien sûr. Voilà, hop, deux femmes sont parties à vélo vers direction du col de Hans qui est juste derrière.
Bon, il y a de quoi casser la croûte, Madame Closet. Bonjour. Non, parce qu'on s'est dit, ça y est, on est quitte d'aller à la maison. Salut Monique.
Ah non, c'est le partage.
Salut Monique.
Il n'y a rien pour vous.
Voilà.
C'était entre
ça
nous
y est.
Deux.
Trop tard, voilà, c'est ça.
Trop tard, il est arrivé trop tard pour déjeuner. Bon,
allez, bonne journée.
Alors là, on va se retrouver devant une bâtisse, juste à côté donc de la boucherie. Un petit code QRC. Alors vous en avez mis pour découvrir la biodiversité, le patrimoine, et aussi l'énergie des maisons.
Voilà, tout à fait. Donc on a une dizaine de réalisations de maisons qui ont fait l'objet de rénovations thermiques. Et donc, sur ce QR code, vous avez toutes les informations. Vous pouvez avoir, là je suis par exemple devant la boucherie Simona, donc vous pouvez avoir en lisant, alors vous scannez le QR code, et là vous pouvez avoir des photos de la boucherie il y a 100 ans aujourd'hui, du bâtiment, et après vous avez les photos des chantiers en cours. Donc là, on voit que la maison a fait l'objet d'une installation d'un panneau solaire thermique et nous sommes quasiment, je pense, enfin jusqu'à récemment, l'unique boucherie d'Alsace où l'eau de préchauffage des saucisses est faite par le soleil. Et donc, non seulement il y a eu ces panneaux de solaire thermique, mais puisqu'il y a énormément d'énergie qui est partie par le toit, hein, on sait 40% de l'énergie part par le toit, là ça fait l'objet d'une isolation par laine de bois d'une quantité importante.
Donc on a toutes les indications, on a le avant et le après, donc avec les gains.
On a toutes les informations techniques de ce qui a été réalisé. Il y avait ce qui avait été dépensé avant, le coût de l'opération et les économies générées.
Vous mettez en valeur aussi bien les bâtiments privés que les bâtiments publics.
Tout à fait. Ben, il faut que la commune montre l'exemple. Donc on l'a fait, nous, pour un certain nombre de bâtiments communaux. Et ça peut avoir des effets inattendus. Par exemple, l'école avait un plancher de grenier énorme qu'on a isolé par la laine de bois. Et malheureusement, on a eu le feu à l'école. Et la laine de bois en quantité importante a empêché les flammes d'arriver au contact de l'oxygène dans le grenier et ça a empêché l'école de brûler. Ah ouais. Et nous avons eu pour 80 000 euros de dégâts, autrement il y en aurait eu pour plusieurs millions d'euros.
Jean Vaugel, là on voit quand même passer pas mal de camions. Est-ce que les camions internationaux ont le droit de passer ici ?
Non, pas du tout, mais il y en a de plus en plus qui passent parce que les amendes sont ridicules.
Ouais. 80 euros. C'est
ça. 80 euros, et puis ils ont une chance sur 1000 ou sur 10 000 de se faire prendre, donc le risque est nul. Ouais, et donc ça a un coût énorme pour la société, parce que nos routes ne sont pas faites pour autant de camions et des charges si lourdes. Donc le coût indirect est énorme. Et voilà, moi je me bats, quand on pense développement durable, on a quand même, on n'est pas des cinglés au niveau économie. On pense quand même de calculer les effets induits de ce que l'on fait. Et donc bien entendu, moi ça me ramolle.
Jean, je vais m'en retourner vers une autre région, je ne sais pas encore laquelle, donc on va quitter donc ces Vosges, avec un petit mot de fin.
Ici, ce que j'ai voulu montrer, et c'est aussi pourquoi j'ai écrit le livre, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Souvent, les jeunes et moins jeunes sont découragés en disant « Ah, mais j'ai pas les moyens financiers, ah, mais j'ai pas fait des études, ah, mais j'ai pas fait ceci ». Et ici, on voit qu'avec trois fois rien, on peut aller très loin. Et c'est vraiment ce que je voudrais dire à tout le monde, à tous les Français. Il y en a pas qui sont programmés pour réussir parce qu'ils ont ceci, cela. Tout le monde peut faire vraiment de belles choses pour lui, pour son village, pour son pays, pour l'humanité, pour ses voisins. Et qu'il faut juste le vouloir pour aller loin.
Ouais, ce que l'on entend, c'est surtout ne pas forcément attendre systématiquement des autres.
Oui, et puis si vous voulez, ouais, alors c'est sûr que si on a fait des études, il vaut mieux en faire que pas en faire. Mais vraiment, moi j'ai vu des tas de gens ici qui ont eu des réussites remarquables. Voilà, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que ça c'est une caractéristique typiquement du massif vosgien. Nos parents, grands-parents n'ont pas des gens qui ont fait forcément beaucoup d'études, mais c'est des gens qui ont toujours eu envie d'apprendre et de progresser. C'est ça l'essentiel dans la vie. C'est apprendre, progresser, toujours avancer, être au service des gens et pas à un moment donné se décourager ou ne plus rien faire.
Vous avez dit un truc important, être au service des gens, ça va pas de soi, mais pour vous, c'est votre ADN.
Oui, parce que si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais vous faites un peu de sociologie, la béaba qu'on vous apprend, c'est dire qu'un homme ne peut être heureux que s'il a plus et surtout s'il est plus. C'est-à-dire s'il est considéré, si lui a le sentiment d'avoir permis à des gens d'être heureux et de progresser, et c'est ça l'essentiel.
On peut pas être heureux tout seul dans son coin. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est voilà, il y a eu des mouvements sociaux en France, mais ce qu'il faut vraiment retenir de tous ces mouvements, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place à Salles à travers une maison de la bienveillance et des projets, il faut que les gens se reparlent et aient envie et fassent des choses ensemble.
Merci Jean Vogel, à bientôt.
Merci Denis, bon vent.
C'était donc le quotidien d'un maire d'une commune rurale de 850 habitants, donc Salles, vous l'avez compris, et donc toute son histoire, il la raconte donc dans cet appel de Salles. Le combat d'un maire pour réveiller la France rurale aux éditions de la nuée bleue comme la ligne bleue des Vosges, un homme qui est à la fois agronome, qui est visionnaire et aussi qui a une sacrée écoute, et ça évidemment ça fait quand même pas mal de bien. Ah, mais on va voir une petite chose, mais auparavant, avant de se quitter, ah.
CO2, mon amour.
Je viens des Vosges. Les Vosges, vous voyez.
Avec Denis Chessou.
Les Vosges, vous voyez. C'est en France, hein, vous voyez. C'est juste avant l'Ukraine, vous voyez.
Sur France Inter.
C'est dans l'Est, en Lorraine.
Mais non, c'était de l'humour, évidemment. Et en plus, c'est très très beau. Tenez, les derniers mots de l'émission. Alors lui, il n'est pas des Vosges, c'est un nordique. Jacques Bonafé.
La première des pollutions, c'est la pauvreté. Gandhi.
Merci à Tristan Gratalon qui était aujourd'hui à la technique, à Marion Philippe et donc Jérôme Boulet qui a réalisé, qui a colorié donc toute cette émission. Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, ah bah, ça va être une autre réalité, ça va être une fable, ça va être une vache, un fromage, des agriculteurs et un parc naturel régional qui est donc celui du Vercors. Vous allez voir comment tout ceci s'emboîte et évidemment que nous serons un peu quand même sur fond de salon de l'agriculture. Vous l'avez compris, l'actu du Mont Petit Loup, ce sera 19h54. Denis Chessou, c'est le Twitter Denis Chessou, tout simplement. Je vous souhaite un très bon dimanche.